Je cherche pas à optimiser.
Voilà, là, on a l'impression que l'impôt, il n'est pas plus progressif, mais il est régressif. Vous payez 25%, bon, l'infirmier en paye 12, moi j'en payais 15,5, maintenant je suis en dessous.
Parce que ce sont des salaires ou des honoraires, donc c'est des revenus du travail. Donc nous, on paye plein pot. Mais à partir du moment où on a un patrimoine très important en structure, le patrimoine, et là, on arrive à réduire son taux marginal d'imposition.
Vite, allez, faut en mettre un coup, les gars, là.
Elle doit alors tenir quelques heures, sinon elle perdra des parts de marché.
Quérir de nouveaux marchés.
La croissance, c'est l'emploi.
Lutter, c'est vivre.
Le problème, c'est la croissance.
C'est pas compliqué.
Il faut redonner aux Français le goût du travail.
Allez au boulot, là, vous voyez que je ne voulais rien faire.
Une petite boîte, je pense qu'elle faisait 500 grammes, tu vois.
On va se tourner maintenant vers un ministre de l'économie et des finances. Voilà, carrément. Michel Sapin a été ministre de l'économie et des finances entre avril 1992 et mars 1993 dans le gouvernement Pierre Bérégovoy. Il a été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État avec Lionel Jospin. Il est socialiste et spécialiste des problème évidemment de, entre autres, de fiscalité, ce qui nous intéresse évidemment à l'horizon des élections de 2012. Et ce qu'on comprend, enfin ce qu'on essaie de comprendre et de faire comprendre, c'est l'importance politique de la fiscalité et des choix concernant la fiscalité. Michel Sapin.
Michel Sapin, on se trouve dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire national à l'économie et à la fiscalité au sein du Parti socialiste. Vous avez été ministre de l'économie en 1992 sous Pierre Bérégovoy. On a découvert dernièrement que la troisième fortune de France, Liliane Bettencourt, payait des impôts à hauteur de 9% de ses revenus. Je suis allé à l'hôpital d'Amiens, il y avait un infirmier qui était plutôt aux alentours de 12%. Moi j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Maintenant je suis passé en dessous des 9%. Mais j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Elle a manifestement plus d'enfants à charge. Enfin, comment ça se fait qu'elle paye que 9%? Comment on en est arrivé là?
Par un processus qui a rendu terriblement compliqué quelque chose qui était très simple. Qu'est-ce qui était très simple? L'impôt sur le revenu. Qui, au départ, dans ses concepteurs, mais jusqu'à ces toutes dernières années, était un impôt sur l'ensemble des revenus que l'on payait, j'allais dire, naturellement, avec un effet progressif, et donc ce qu'on appelle les fameuses tranches, qui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, pouvaient monter jusqu'à 55%. C'était simple. Et puis, il y a eu cette forme de phobie de l'impôt, qui est apparue beaucoup à droite, mais qui parfois était un peu contagieuse, et a pu être aussi portée par quelques voix à gauche. Et qui, parce qu'il fallait faire baisser l'impôt sans trop le montrer, donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif, par le mécanisme qu'on qualifie aujourd'hui des niches, arrive à des situations incroyables. Il n'y a qu'une seule solution dans ce domaine, c'est redonner de la simplicité et de la lisibilité à un système fiscal naturel qu'on trouve dans tous les pays du monde, qui est un impôt normal et progressif sur l'ensemble des revenus.
Vous dites, cette phobie de l'impôt, Vous l'avez vu s'imposer lentement, par quelles étapes, depuis quand?
Cette idéologie qu'on a connue, venue des États-Unis, qui consistait à dire, si on rend les riches un peu plus riches, les pauvres vont en profiter. Ça s'est appelé aux États-Unis la théorie dite du ruissellement. Si en haut ils sont plus riches, ça va ruisseler progressivement et ceux qui sont en dessous vont pouvoir s'enrichir. C'est une doctrine qui n'a montré aucunement son efficacité économique.